France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Libé, un roman vrai. Deuxième chapitre, Amore Mao. Le premier numéro de Libération paraît le 5 février 1973. Mais cette date constitue-t-elle vraiment le point de départ de l'aventure ? Car un journal, quand il paraît pour la première fois, est déjà le fruit d'une longue histoire, d'une longue maturation, celle de toutes les personnes qui lui ont donné la vie. Sartre, par exemple, avait déjà eu l'idée d'un journal depuis très longtemps, sans avoir pu concrétiser cette idée jusque-là. Au moment où il peut enfin se pencher sur le berceau d'un quotidien, il a déjà 67 ans. Un nouveau journal, c'est l'incarnation des mouvements sous-jacents de la société. Comme l'écrit Serge July dans son dictionnaire amoureux du journalisme, Libération est née d'une vague socioculturelle et démographique qui a balayé le monde à la fin des années 60. Les lecteurs préexistent aux journaux, dit-il. Ils l'attendent, ils en rêvent, ils les anticipent même parfois. À l'origine de Libération, il y a une sorte de mouvement de lecteurs en quête d'un journal qui leur ressemble.
L'achèvement et la signature de l'accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam sont le couronnement de 13 années d'une vaillante lutte que mène le peuple vietnamien contre l'impérialisme américain et un groupe de traîtres dans le pays.
J'ai complètement quitté les milieux bourgeois et les institutions bourgeoises. Si je parle ici, c'est, comme je vous le dirai plus tard, parce que j'ai un but précis, mais en principe, non, je suis totalement opposé à toute forme d'institution et de gouvernement bourgeois. Je suis également avec la jeunesse, non pas pour elle, mais avec la jeunesse, c'est-à-dire je travaille avec elle. À l'heure qu'il est, la jeunesse contestataire porte en elle quelque chose de neuf, et la possibilité ou la promesse d'une société neuve. Donc, je suis avec elle.
Dans cet épisode, nous allons revenir en archive sur quelques-unes des sources qui ont permis l'émergence de ce journal. Au sein de ces influences disparates, on trouve à la fois la pensée sartrienne de l'existentialisme, l'idéologie maoïste, c'est-à-dire un communisme qui se veut rénové, anti-impérialiste et qui représente une alternative au stalinisme, et enfin les idées libertaires de l'après-mai 68. Ces dernières idées sont notamment portées par Serge July, qui a bien conscience qu'un grand journal ne naît pas de rien, mais qu'il surfe toujours sur un moment de l'histoire. Archives du 9 janvier 1980.
Un peu plus profondément, je crois qu'il y a un phénomène effectivement de génération. Je crois, bon, c'est des choses connues, mais enfin, il y a eu trois grandes générations dans la presse française. Il y a eu une génération de la résistance, une génération, disons, dite anticolonialiste, donc, qui est dominée par ce média qu'est l'Express, l'invention de l'Express. Et puis il y a une génération située autour de 68, des événements de 68, donc qui, apportant, ayant une nouvelle sensibilité, une nouvelle manière de sentir les choses, les gens, les événements, ne se reconnaissaient pas dans la presse qui était le Figaro, y compris l'Express, l'Observateur ou d'autres journaux. Donc, il s'est trouvé des gens qui, ayant envie de faire la presse, ont fait d'autres journaux pour justement éprouver cette sensibilité en fonction des événements, des gens, etc.
Pour Serge July, donc, Libé est avant tout un enfant naturel de mai 68. Le journaliste Jean Guinel, auteur d'un livre qui raconte l'histoire du journal, n'a de son côté pas hésité à affirmer que ce qui est resté de mai 68, c'est Libération. Évidemment, il s'agit d'une formule. Mai 68 a donné lieu à des réformes concrètes comme celle de l'université et à des avancées sociales comme l'augmentation des salaires. Il y a donc un héritage concret de ce mouvement. Mais l'idée que Libération est devenue le garant des idées de mai 68, le gardien du temple de son héritage immatériel, cela peut en effet se défendre. Car les événements de 68 sont fondateurs pour beaucoup des membres du premier Libération. Il suffit encore une fois d'écouter Serge July pour se rendre compte de l'importance que ce moment a eu pour lui.
Ce concept de sartrien du groupe en fusion, mai 68, c'est typiquement un groupe en fusion. C'est dans l'être et le néant, donc, mais c'est typiquement le groupe en fusion. C'est-à-dire, à un moment donné, je parlais de cristallisation tout à l'heure, mais il y a une cristallisation qui s'opère, et des gens qui sont des individus C'est différent,
séparé,
rien à voir, séparé,
divisé,
rien à voir, et les autres d'un seul coup coalisent ensemble.
Quelque chose se passe
et
entre eux.
Quelque chose se passe et qui est un moment. Voilà, alors c'est un moment évidemment historique, mais par exemple les nuits de barricade ont été des moments incroyables. Mais il y a l'ensemble de la population dans le quartier, en tout cas à ce moment-là, collabore. C'est-à-dire, à la fois, il y a des chaînes humaines de gens, les concierges, les machins, enfin tout le monde qui porte des pierres, ou etc.
Collabore pour faire la barricade,
pour
l'entretenir,
pour aider les manifestants, pour etc. Enfin, par exemple, à un moment donné, j'étais poursuivi sur les toits. Bon, on est accueilli par les gens dans
comme
les
ça,
appartements.
C'est naturel. Voilà.
Bénédicte May, vous êtes une ancienne de Libération, aujourd'hui magistrate. Vous étiez un peu jeune pour être sur les barricades en mai 68. Mais pourtant, est-ce que vous vous définiriez comme une enfant de mai 68 ?
Oui, ça nous a laissé des traces. Et oui, on est forcément des enfants de ça, c'est sûr. Et par la révolution aussi sexuelle, ce truc très important de l'avortement, des choses comme ça qui ont bouleversé la société. Et ça va bien de mai 68.
Donc on sent une exaltation, comme d'ailleurs on le sent dans la voix de Serge Julie quand il parle de mai 68, comme en effet de quelque chose d'absolument incroyable et d'absolument une espèce d'explosion qui quand même a changé vos vies et qui infuse dans le journalisme.
Oui, bien sûr, parce que du coup on s'est senti autorisé à parler de tout. Il n'y avait pas de sujet tabou. Vous savez, l'éducation bourgeoise enfantine, enfin, c'était pas une famille très, très pénible, hein, mais bon, on n'avait pas le droit de parler à table et des choses comme ça. On pouvait pas s'habiller comme on voulait. Dans les écoles, si on était des filles, il fallait mettre des jupes, on pouvait pas mettre de pantalons. Des trucs débiles comme ça de tous les jours, qui, ça, ont complètement été balayés. L'uniforme, le machin, tous ces petits détails qui font que, en fait, depuis qu'on est né, on est obligé d'en passer par ce que veulent d'autres gens et qu'ils nous les imposent. Et d'un coup, ça, c'était dehors, quoi.
Alors comment ça pouvait se concrétiser, justement, au sein même de Libération, cet héritage de la pensée 68 ?
Personnellement, je pense que c'était l'anti-autoritarisme. On admettait d'être dominé par personne, et donc il fallait être toujours conscient de ce qu'on faisait, d'accord avec ce qu'on faisait ou pas, donner son opinion, et puis se rallier s'il faut à l'opinion majoritaire. C'était ça. Et puis en même temps, laisser les gens vivre leur vie.
Les yeux piquent, c'est maintenant l'affolement, et tout le monde crie aux barricades. Précisément ces deux barricades, et bien maintenant le vide se fait, tout le monde monte aux barricades.
Le mouvement de mai 68 a marqué un désir de secouer les cadres anciens, de vivre davantage en tant qu'individu et moins à travers un rôle social. Cette aspiration n'est pas retombée une fois le calme revenu dans les usines et les rues du quartier latin. Elle a trouvé une chambre d'écho et notamment dans les pages de Libération.
Il y avait des informations sur des choses qui se passaient dont personne ne parlait. Faut jamais oublier que le début des années 70, fin 68, début des années 70, pour prendre un journal évidemment le plus honorable de tous, qui est Le Monde, tout ça, cette effervescence de la société civile, c'est dans une rubrique qui s'appelle Agitation.
Oui.
Pendant longtemps, ça va durer pendant un certain temps, ça va être Agitation. Et donc, qui est une manière de la définir. C'est-à-dire, c'est une colonne, il y a des petites choses dedans, mais ça ne dépasse jamais ça. Et donc, l'idée de dire, il y a un vrai besoin.
Dans son fonctionnement interne, Libération mettait en pratique les principes qu'il défendait dans ses pages. Le principe d'autogestion, le principe d'irrévérence, l'absence de hiérarchie trop marquée, mais aussi la liberté de mœurs, la possibilité d'être soi-même, la place importante de la sexualité. Au fond, à Libération, il était interdit d'interdire. Est-ce que c'était aussi ça, à l'intérieur du journal, la liberté amoureuse? Parce que, en tout cas, elle était prônée dans les articles du journal.
Mais oui, bien sûr, parce que c'était une vraie question. Moi, par exemple, j'avais une sœur aînée qui avait 4 ans de plus que moi, et elle s'est retrouvée enceinte. Mes parents, évidemment, elle voulait, comme ça, hein, c'était pas parce qu'elle avait une histoire avec quelqu'un. Donc, elle voulait évidemment ne pas garder cet enfant, se faire avorter. Ça a été toute une histoire. Mais la pauvre, c'est la morflée. Je me dis, c'est horrible. Elle a dû aller se trouver quelqu'un, enfin, etc. Ça marque.
C'est intéressant, la question du féminisme à Libération. Il y avait un certain nombre de femmes qui étaient très féministes à Libé. On entend aussi dire que c'était aussi un monde d'hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que quand Libération est née, c'était un journal patriarcal. Bon, il y avait énormément de féministes et des gens célèbres. Il y avait Maren Cell, par exemple, quand même une femme très célèbre. Il y avait, enfin, je ne me rappelle plus le nom, des filles qui étaient connues dans le milieu féministe et qui existaient, mais en 1974, je crois. Non, c'est après. 75, Simone de Beauvoir qui a participé à sa façon à la naissance de Libération, puisque nous, à l'appel, quand on était rue de Lorraine, il y avait des réunions sur le journal où il y avait Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, et Simone de Beauvoir était un peu en retrait, mais elle avait demandé à Jean-Paul Sartre, elle avait dit, tu ferais bien de faire une réunion, demander aux femmes de Libération comment elles sont traitées dans ce journal, et assez rapidement. Et il l'a fait, cette réunion, on était 14 à travailler de façon permanente à Libération, des journalistes, des clavistes, des gens de la fabrication, de l'accueil, etc. Et c'était une réunion tout à fait extraordinaire. Parce que d'abord, au journal, on en a parlé, on a dit, tiens, il veut... Ils étaient contre, en disant, mais on fait pas de différence, nous, entre les hommes et les femmes, donc il y a eu des âgés, tout ça. Et lui, il était très clair, Simone, elle n'était pas folle, elle avait dit, je fais venir que les femmes, sinon, ça va être les hommes qui vont parler. Et pour moi, cette réunion, elle a eu une grande importance, parce que d'abord, à la fin, je ne me souviens plus trop exactement ce qu'il a dit, on était debout dans sa cuisine, et il était assis sur la chaise... Et il y avait Benny Lévy, il y avait Philippe Gavy qui était là, c'était son secrétaire personnel. Et il a parlé, je ne me souviens plus trop de ce qu'il a dit. Il a tout de suite dit que c'était Simone qui lui avait demandé de faire cette réunion. Il nous a demandé comment ça se passait. À la fin, il a dit « ne vous soumettez jamais ».
Une autre source intellectuelle importante pour Libération a donc été, on l'a dit, la philosophie de Sartre, l'existentialisme. Pour simplifier beaucoup, disons que l'existentialisme consiste à considérer que nous ne sommes pas définis par un destin quelconque. Dieu n'est pour rien dans notre vie, nous sommes libres de nos choix, et c'est par nos choix et par nos actions que nous devenons nous-mêmes, pas par notre milieu, notre religion ou par la morale ambiante. L'existentialisme irrigue la pensée de beaucoup des employés du journal, pas seulement d'un point de vue théorique, mais également parce que Sartre était bel et bien présent à la rédaction. Archive Serge Julie, dans l'émission À Voix Nue, en 2012.
En général, on minore le rôle de Jean-Paul Sartre sur cette question. C'est une erreur absolue. Jean-Paul Sartre avait voulu créer un quotidien quand il s'était lancé en politique après la guerre. Ça n'avait pas marché. Il avait, pour aller vite, Jean-Paul Sartre avait envie de faire un édito plusieurs fois par semaine. Mmh. Il avait envie d'écrire sur l'actualité plusieurs fois par semaine, qui est quand même à la fois l'écrivain et le philosophe qui a le plus écrit sur l'actualité. C'est plus mêlé d'actualité, y compris de journalisme, qui a une autre idée du journalisme, qui était exprimée dans le numéro 1 des temps modernes. Donc il a envie non seulement de prêter son nom, c'est-à-dire d'être le militant de la liberté de la presse, mais en plus d'en être, d'accord, d'y participer.
Bénédicte May, quels sont vos souvenirs à vous de Jean-Paul Sartre, qui au fond était assez présent, comme le dit Serge Julie, dans les locaux même de Libération?
Alors moi je l'ai surtout connu dans les locaux de l'APL. Et la chose qui m'a le plus frappée, c'est qu'on écrivait nos trucs là, et il nous demandait l'autorisation de lire ce qu'on écrivait. Parce que quand même, comme il mettait son nom, et je voulais savoir un peu ce qu'on écrivait. Et le souvenir que j'en ai, c'est d'un homme extrêmement courtois et gentil. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec nos supérieurs. La notion de petit chef, grâce à Jean-Paul Sartre, c'est un truc. pour moi, c'est vraiment la preuve de la bêtise, quoi, absolue. Parce que lui, qui était vraiment intellectuellement, évidemment, face à des gens qui ont 20 ans, c'est pas tout à fait pareil, et qui avaient passé tout un tas de choses, qui, je sais pas, avaient connu plein de trucs, le fait qu'il soit si gentil avec nous, si courtois, qui nous parle poliment, avec un respect absolument incroyable, je me suis dit, ben voilà, il y a des gens remarquablement supérieurs à nous.
Et très célèbres quand même dans le monde
entier. Extrêmement célèbres dans le monde entier, et qui a une grande valeur, et en fait, il ne se la pète pas du tout, quoi. Il est là, il nous considère comme des êtres humains, égaux de lui-même, alors que, oui, ben oui, et qu'une personne égale une personne, une vie égale une vie, et qu'on a tout à fait le droit, nous, et il nous écoute, en fait, il s'intéresse à nous.
Sartre a aussi dit « Libération fait partie de mon œuvre ». C'est-à-dire qu'il mettait sur le même plan l'être et le néant, les mots et Libération.
Bah, je pense que oui, c'est une œuvre, enfin, je dirais pas ça, évidemment, parce qu'il n'aurait pas eu le prix Nobel avec que Libération. Mais je pense que ce qu'il veut dire, et en plus il l'a refusé, non, il a essayé de le récupérer après pour financer Libération, ils lui ont dit « bah non, c'est plus possible ». Oui, c'est une œuvre collective, ça lui plaît, mais ça lui plaît de mettre ça, parce qu'en fait, c'est pas une œuvre qui domine tout seul, c'est une œuvre qui partage avec d'autres. Moi, j'aime bien la notion d'œuvre collective.
Enfin, la troisième source idéologique qui irrigue le Libération des premiers temps, c'est le courant maoïste. Les Mao sont des communistes en rupture de ban avec Moscou. Ils dénoncent le stalinisme, mais restent persuadés qu'une autre société est possible. Pas de chance pour les Mao. La révolution culturelle de Mao Zedong va s'avérer policière et sanguinaire elle aussi. Pardon d'avoir divulgué. Mais dans les années 70, les Mao pouvaient encore y croire. Leur slogan, servir le peuple. Leur credo, purifier le parti des éléments jugés bourgeois.
Partout où on allait, on était accueillis. Pas par des lecteurs, mais un peu plus que des lecteurs. Il y avait un lien sentimental, il y avait une affection. On venait pour entendre, on remontait, on publiait au service des luttes. Hein ? C'est la naissance de Libé, sa fonction c'était ça. Et il n'y avait plus, pour les journalistes de Libé, on n'osait même pas d'ailleurs, on disait les copains de Libé, hein, le terme même de journaliste était, il nous écorchait la gueule, ça c'était évident. La forme de journalisme qui est née de Libération, c'est l'application, effectivement, des grands enseignements du président Mao. C'est-à-dire, il faut aller au peuple. Il ne faut pas parler à la place du peuple. Le journaliste est au service du peuple. Et il faut oser servir le peuple. Et qui ne fait pas d'enquête n'a pas le droit à la parole.
Au journal, les Mao n'avaient pas la réputation d'être les plus rigolos. Ils étaient les gardiens rigides de la doctrine gauchiste, alors que les libertaires, eux, avaient davantage envie de s'amuser. Enfin, ce n'est pas exactement l'avis de Jean-Claude Vernier, l'un des représentants du courant Mao à Libération.
On présente un peu les militants de cette époque comme des gens tristounets, des espèces de curés Mao qui ne pensaient qu'à la lutte, qu'à ceci, pas du tout. On pensait au cul comme tout le monde, on pensait à la lutte et on était capable de faire ce type de rencontre. Moi, militant de formation scientifique, alors peut-être avec des godillots et des bleus, en tout cas tristounets, ça c'est sûr, et Jean-René qui débarquait lui avec ses costards Saint-Laurent, son Alfa Romeo, rédacteur en chef de Weekend.
C'était le prototype du Don Juan, dit-on.
Voilà, on était capable de se voir. De se voir et de faire des projets ensemble. Mmh. Donc c'est une époque d'aventure. C'est pas du tout je la revendique toujours autant parce que l'aventure était quelque chose de vivant. Et entre le costard Saint-Laurent et le bleu de chauve, on était capable de discuter de la vie, du sexe, de l'actualité et de monter des projets qui étaient des projets cinglés.
Bénédicte May, qu'est-ce que c'était quand même cette inspiration maoïste et pourquoi est-ce qu'on revient toujours finalement à ce courant-là pour parler de libération?
Bah parce que ça c'est vrai, parce que ce qu'on appelait les maoïstes, c'est eux qui avaient fait la cause du peuple, dont Jean-Paul Sartre a été directeur de la publication, quand les autres sont partis en prison, là ils ont été arrêtés. Et après, du coup, c'est de là qu'est venue Libération. Mais il y a eu d'autres groupes, hein. Il y a eu Pirates, hein, des libertaires qui faisaient aussi des journaux ponctuels sur des événements ponctuels, qui étaient plus poétiques et très dessinateurs, parce que on parle des rédacteurs, mais en fait, on parle pas. Il y avait tout qui était dedans, la photo, la couleur, le dessin, il y avait tous les modes d'expression qui étaient dedans, pas que l'écriture. Et donc, tout était là-dedans.
Mais au fond, est-ce que vous avez l'impression que parmi ces trois courants qu'on a identifiés, oui, qui sont un peu les sources quand même de ce journal, est-ce que c'était important, plus important, moins important, le côté Mao? Au fond, qu'est-ce qui reste pour vous?
En fait, je pense que ce qu'on appelle le côté Mao, c'est tout ce qui n'était pas trotskiste, hein, même s'il y en a certains qui sont arrivés après dans Libération, mais marginal. C'était pas du tout les mêmes voix, en fait. Nous, bizarrement, ce groupe Mao, là, il a été plus peut-être dans la vie, parce que j'ai l'impression, mais c'est un peu un hasard. Je pense que c'est... Je crois pas que ce soit la pensée du président Mao qui ait fait ça, hein. M'étonnerait. Mais bon, un peu un hasard, c'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé comme ça, et de toute façon, la première tâche de Libération, dès le début, ça a essayé de se séparer des Mao, et pas se laisser justement être un organe d'un courant politique qui était souterrain, en plus, qui était pas, qui s'affichait pas. Bon, au début, il y avait une cellule Mao. Moi, j'ai pas dedans, de toute façon. Une cellule Mao, et très vite, même Sergi, il a dit, mais ça sert à rien, quoi.
Une cellule, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que les quelques militants Mao du journal, les vrais, les purs, les durs, là, du début, bah, qui se réunissaient entre eux pour discuter du journal. Mm-hmm. Après, c'était pas possible, en fait. Non, ce sont les gens du journal qui font le journal, point à la ligne, quoi.
Il faut parler ici d'un éléphant dans la pièce. Dans les années 70, les extrêmes gauches d'Italie et d'Allemagne ont choisi de passer la frontière qui sépare le militantisme du meurtre. Bombes, enlèvements, prises d'otages marquent les actualités de cette époque. En France aussi, cette tentation existe chez une minorité de l'extrême gauche révolutionnaire, et dans le Libération des débuts, cette possibilité ne laisse pas tout le monde indifférent.
Je voudrais quand même resituer un petit peu les choses. Juin 72, c'est le moment aussi où le terrorisme commence à faire des ravages en Italie, en Allemagne, au Portugal. On n'était pas totalement cinglés. On venait de dissoudre l'organisation maoïste, la gauche prolétarienne, parce qu'on s'était aperçu que potentiellement, je simplifie, mais potentiellement, ça devenait un petit organisme rigide et on n'était pas loin du terrorisme. Donc, dès le départ, dans l'idée du quotidien, il y a cette idée explicite de mobiliser les énergies sur autre chose que des bombes.
Je peux préciser là que j'ai demandé à Pierre-Victor de l'époque, Benny Lévy aujourd'hui, de témoigner dans cette émission, et il a refusé de parler, ça ne l'intéresse plus aujourd'hui, mais il m'a dit que Libération était conçue pour lui comme une stratégie de dissolution pour éviter la violence et le terrorisme.
Ah oui, ça c'était explicite, et c'est là-dessus finalement que j'ai pu le convaincre, parce qu'au départ, la réaction de l'ensemble, de tout le monde, c'était... T'es totalement cinglé.
Alors c'est une archive de Jean-Claude Vernier qui date de 1993, qui est incroyable quand on entend ce qu'il dit, que voilà, Libération a pu être une soupape en fait de décompression qui aurait peut-être évité justement que certaines personnes passent à l'acte terroriste.
S'il le dit, hein, il a participé vraiment aux premières discussions concernant Libération. Donc c'est sans doute vrai, mais c'était plus, je pense que c'était plus que le journal. Ceci dit, ce qui est marrant, c'est qu'à Libération, on a récupéré plein d'Italiens, des
brigades rouges.
Mais bien sûr, qui sont venus travailler à Libération. Parce que où est-ce qu'ils pouvaient aller travailler ailleurs que là, en fait, pour être monteur, machin, truc muche.
Et ça créait des débats, ça?
Non, pas du tout, parce qu'on ne le savait pas. On l'a su qu'après. Et ils étaient, de toute façon, eux, ils étaient là pour arrêter avec ça. Donc, ils allaient pas, ils venaient pas pour continuer d'une façon ou d'une autre. Mais ils avaient leurs idées, leurs opinions. Et oui, ils travaillaient dans le journal, en fait.
Alors, il y a aussi Pierre Goldman, frère de Jean-Jacques Goldman, ouais. Qui avait commis un meurtre, quand même, et des braquages à main armée, et mais... qui était dans le journal Libération, qui était employé du journal.
Ah non, pas du tout, hein, heureusement. Non, Pierre Goldman, d'abord, il a été relaxé, enfin, comment on dit, c'est en appel, et il a eu un deuxième procès, et, enfin, c'est pas un appel, puisqu'il n'y avait pas d'appel à l'époque, mais enfin, bon, finalement, il a été blanchi de ses meurtres. Mm-hmm. On sait jamais, hein, parce que quand on lit sa littérature, on se demande si oui ou non, mais bon, mais c'est vrai qu'il venait beaucoup à Libération. Par période, parce que par période, il disparaissait. C'était pas un
donc
personnage...
Par amitié avec les membres de la...
Oui, bah, il était très ami avec Marc Kravets, qui était journaliste à Libération. Je crois qu'il connaissait bien Serge Julie, etc. Mais de toute façon, alors, c'était l'anti-Sartre par excellence. C'est un tel mépris des gens que c'en était insupportable. Il nous considère à peu près tous comme des... le même mépris qu'il avait pour le mouvement de mai 68. Hein, c'est des petits bourgeois, tout ça. Donc lui, moi, j'ai aucune sympathie pour lui, donc je ferais du mal à en parler. J'ai même eu une altercation assez célèbre avec lui. Donc,
c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que c'était la période où j'étais claviste. Le journal, justement, le journal qui a reparu en mai 81. Il y avait un texte de lui qui devait être publié, très très long. Et donc Serge, il vient me voir, j'étais plus claviste. Hein, et il me dit, tu voudrais pas le taper? Parce que connaissant le personnage, susceptible, compliqué, tout ça. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et donc, je vais me mettre à ma machine. Et puis, je m'aperçois que le texte, en fait, c'était des photocopies. Mais il manquait les trois premières lettres de tous les mots. Donc, il demande à Pierre de venir. Donc, il s'assied à côté de moi. Et puis, au bout de, évidemment, tel qu'il était, ça le faisait, mais royalement, ça l'ennuyait mortellement d'être là, coincé, à me dire à chaque fois le début des phrases. Et au bout de peut-être un quart d'heure, il me dit « T'aurais pas mieux fait d'être institutrice, toi ?» Je le connaissais pas, en fait. Hein. Ben, je lui dis « Je comprends pas ce que tu veux dire. » Il me dit « Je sais pas, j'ai l'impression. » Tu devrais être institutrice. Je lui dis, ah bah tiens, tu vas voir l'institutrice. Et en fait, le texte, il s'imprimait sur une photo. Il y avait un système de photos dans un bloc noir qui était sur le côté. Donc, je suis allée chercher la boîte noire. Je lui dis, tiens, regarde ton texte. J'ai sorti le papier blanc. Et je lui dis, bah, tu vas trouver quelqu'un d'autre pour le taper. Donc, il le plaît. Il n'a jamais été publié. L'autre, il est parti en colère. Il est allé dire, ton personnel à Serge Julie, c'est vraiment des nuls. Puis voilà, c'était ce personnage-là. Puis il a tout le temps été dans des histoires à Libération. Il est à un moment, il a envoyé des gens casser la gueule à Pacadis parce que il avait mis une croix de fer sur lui. Et donc c'était les punks, les machins. Bon, et il s'habillait comme ça, très provocateur. Donc il s'est fait rouer de coups là par trois personnes dont je dirais pas les noms parce que c'est pas très gentil. Et puis il y en a un qui est très célèbre aujourd'hui, donc c'est bon. Et il ne savait même pas que Pacadis était juif et que sa famille avait été exterminée en Grèce. Enfin bon.
Donc tout n'était pas très agréable.
Ah non. Non, lui, c'était particulièrement un personnage contrariant.
Après l'autodissolution de 1981, Serge Julie se retrouve avec les Coups des Franches pour lancer un tout nouveau journal. Bienvenue à Libé 2, dans lequel les préoccupations sociétales et intimes vont prendre davantage de place. Mais le journal est-il devenu alors un repère de bobos avant même l'invention des bobos? C'est ce que nous allons nous demander au cours du prochain épisode. C'était Libé, un roman vrai, une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost. Prise de son, Noé Chabanne. Mixage, Manon Houssin. Documentation INA, Hervé Evano. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Thank you.